Aimez vos ennemis. Comment recevons-nous cet évangile? Alors, il y a une première façon, se dire « Oh, moi, j'ai pas d'ennemis. Je m'entends bien avec tout le monde et personne me fait de mal. » Mais peut-être il faut regarder de plus près. Parfois, nous fuyons ceux qui nous font du mal. Parfois, nous évitons tout conflit en nous débinant. C'est effectivement une façon, mais ça ne règle rien. Et bien souvent, ceux qui évitent toute parole qui pourrait être blessante, ça finit de fuite en fuite par leur ronger le cœur, et à la fin, ça explose ou ça sombre dans une très grande déprime. Autre façon d'entendre cet évangile, « Ah oui, ça c'est réservé aux très grands saints, ou au Dalai Lama et à certains lamas tibétains vraiment tout purs. » Je ne crois pas. D'une part, parce que c'est le message que Jésus envoie au début de sa prédication à une foule de gens qui étaient des Méditerranéens, impulsifs et parfois violents. Alors, quand ils entendaient ça, ils étaient autrement plus secoués comme nous. Et si ça nous semble impossible, combien plus à eux? Quant aux lamas tibétains, ils ne sont pas forcément aussi zen que certains veulent bien le dire. Juste une anecdote, parmi les chanoines réguliers, nous fêtons le bienheureux Maurice Tornet, un chanoine du Grand Saint-Bernard. C'est bien d'en parler au moment où un certain nombre vont à la montagne. Eh bien, Maurice Tornet, qui était curé de Yerkalo, au Tibet, avait essayé d'aller voir le Dalai Lama. Eh bien, en chemin, il a été arrêté et fusillé par ces gentils lamas qui sont si non-violents. Bon, on arrête là, il a été béatifié, son amour et sa non-violence ont été victorieux de cette cassure que d'autres avaient voulu provoquer. Alors donc, recevons cet évangile tel que Jésus nous le donne, dans sa force, mais aussi dans sa puissance de libération de tout plein de petits recoins un peu craintifs ou obscurs dans nos cœurs. Quand je parle à des jeunes en leur disant « Si on te frappe sur une joue, qu'est-ce que tu fais ?» Ben, vous souvenez, tous les ados un peu pleins de vie disent « Ben, si on m'en colle une, moi je le renvoie, et plutôt deux que une. » C'est une façon de répondre. Mais est-ce bien celle-là? Alors, l'Église, pour éclairer cette parole a priori si contrariante et impossible, nous met en regard un épisode de la vie de David. C'est beau de recevoir comme un petit feuilleton une série d'épisodes de la vie de David. David était-il un non-violent? Le premier épisode connu, et même archi-connu, quand il était ado, le fait de balancer une pierre au front de Goliath et après ça de prendre la lourde épée de Goliath et lui trancher la tête, c'est pas la non-violence prônée par certains. David a voulu, d'une part, protéger le peuple menacé par les Philistins, c'est juste de défendre son peuple. D'autre part, il a dit aux Philistins, « Tu as insulté Dieu, prépare-toi à mourir. » Et Goliath, de lui rire au nez, ce petit David qui le menaçait, lui le géant, eh bien, David avait prévenu. Et effectivement, le géant orgueilleux a été abattu. Le même David, plus tard, après nombre de guerres et, on va dire, d'ennemis vaincus et parfois tués, il est poursuivi par ce roi assez grand au départ, mais devenu complètement paranoïaque, qui voit en David un rival, parce que David était aimé, un peu trop aimé par les femmes, mais laissons cette page-là légèrement de côté, alors que Saül était détesté. David a failli être cloué par une lance pendant un repas. Vous imaginez, il était en face du roi, et à un moment donné, le roi prend une lance et essaye de tuer celui qui le servait avec fidélité. Et David fuit. Le roi essayait d'attraper David pour le tuer. Et dans la nuit, le roi dort. David se glisse. C'est superbe. On pourrait en faire un film plein d'aventures. Il se glisse dans le camp. Apparemment, Dieu lui donne la possibilité de se venger. Œil pour œil, dent pour dent. C'était la morale à l'époque. Et bien, Abishaï, qui l'accompagne ce jour-là, lui dit, ouais, te salis pas les mains, quoi, en gros, mais ton ennemi t'est livré entre tes mains, je vais le clouer au sol, d'un coup, avec sa propre lance, celle-là même qui a failli tuer David. Et David ne le fait pas. Il part, et de l'autre côté de la colline, il hurle, « Tu vois, mon roi, j'aurais pu te tuer, et je ne l'ai pas fait. » Nous voyons deux victoires en une. Première, David se montre effectivement le plus fort. Il ridiculise la violence de Saül. Il montre qu'il est le plus fort et qu'il aurait pu tuer. Et il ne l'a pas fait. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la grandeur d'âme et tout le monde s'en rend compte. Deuxième victoire, la victoire de David sur sa propre violence. Il est comme nous. Il y a des fois, il a voulu écrabouiller son adversaire. Mais il sait combien cette violence, ajoutée à la violence, augmente la violence. Alors, même dans l'Ancien Testament, nous avons des exemples de la réalisation de cet évangile que Jésus allait donner bien plus tard. Alors, pour l'ado de tout à l'heure, qui répond par une baffe face à la baffe qu'il a reçue, lui dire, et si à la place, tu répondais, moi je t'aime bien quand même, ça, ça casse. Ça fait tomber la violence de l'agresseur, ça montre la supériorité du sourire sur la grimace, ça montre la supériorité de la maîtrise de soi sur celui qui, ne sachant pas dialoguer, utilise les baffes au lieu des mots. Et nous-mêmes, nous savons très bien, ayant grandi en âge et en puissance, comment une parole assassine peut véritablement faire mal à celui qui nous veut du mal. Nous savons très bien comment des chuchotements dans le dos des gens peuvent briser la réputation. Et ça peut nous sembler une bonne solution quand quelqu'un a dit des choses dans notre dos qui nous ont été rapportées et qui nous ont tellement blessés. Cette solution en est-elle une ? Avec notre intelligence, nous savons bien que ça ne va pas. Avec notre sensibilité, bien souvent, nous sommes tentés d'en rajouter une couche juste pour faire sortir ce trop-plein d'amertume, de jalousie et de tant de peines accumulées. Parfois même, nous l'avons fait. Alors, la solution, je t'aime bien quand même. Le dire, essayons-le. Il n'y a pas que les ados qui le font. La solution, quand ce n'est pas possible de le dire à une personne, parce que vraiment, la brouille est consommée, et encore telle parole cette semaine nous a encore blessés. Pouvoir dire dans la prière, « Tu sais bien, Seigneur, qu'au fond, J'ai aucune envie de l'assassiner, cette personne. J'aimerais même retrouver la paix avec elle. Eh bien, c'est déjà une étape. Priez pour vos ennemis et reconnaître la personne blessante comme, effectivement, d'une certaine manière, un ennemi ou une ennemie. Eh bien, c'est une première étape. Leur souhaiter du bien, ça coûte rien. Nous réjouir de leur réussite à ceux dont nous avons tendance à les jalouser, là encore, ça coûte rien. Et l'admiration de ceux qui effectivement font aussi du bien et l'adoration de ce Dieu qui fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants, c'est magnifique. Après ça, arrive un moment de la grande confrontation et pouvoir, par un sourire, par une petite parole d'essai, remonter la pente. C'est peu à peu, pas après pas, et parfois sur un geste héroïque, que brusquement le monde blessé rebascule dans le monde d'amour. C'est brusquement que l'amour remporte une victoire éclatante sur la violence et la haine ressassée. L'évangile n'est pas fini. Le deuxième passage, on va le faire brièvement. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dieu aurait pu vouloir se venger de toutes les insultes que l'humanité lui a envoyées, de toutes les infidélités et désobéissances. Eh bien, pour vaincre tout ce magma sordide, qu'est-ce qu'il a fait? Pouvait-il rester heureux au ciel alors que nous, qu'il continue à aimer, sommes malheureux? Alors, miséricorde, misère et cœur, ensemble dans un même mot, Dieu a mis son cœur au niveau de notre misère, et même plus bas, à la croix. Dieu a mis son bonheur à rallier les gens les plus lamentables, condamnés, blessés, et à dire « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, nous voyons le bonheur de Jésus, Dieu et homme, se glissant dans la haine la plus recuite et injuste, et refaire basculer dans le pardon, la victoire de l'amour et la résurrection pour montrer que nous n'avons rien à craindre, la victoire est promise, que nous avons à suivre son chemin sans crainte, il est avec nous. Et même les jours où notre amour n'est pas reçu et que la croix peut nous sembler lourde, cette croix est victorieuse du mal si nous mettons notre amour dans l'amour de Jésus, si nous demandons à l'amour de Jésus de venir tout retransformer en nous. Amen.